Et bienvenue à cette dernière heure des amateurs de sport en ce mardi soir. J'espère que vous allez bien. Match de hockey qui va commencer dans les prochaines minutes. On va regarder ça avec vous, pour vous également. Tampa Bay Islanders. Jérémy qui va bien sûr assurer le suivi un petit peu plus tard dans la soirée. À ce moment-ci, nous accueillons justement Jérémy, mais Philosa cette fois. Bonsoir Jérémy.
Salut Mario.
Alors on va discuter de deux sujets. Soccer et Thierry Henry, le match de demain tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va parler de la carrière d'Elider Alvarez. Il a subi une défaite par arrêt d'arbitre le 22 août dernier dans un combat disputé à Las Vegas, dans la bulle de Las Vegas contre Joe Smith Jr. Dans les moments qui ont suivi le combat, déjà Mark Ramsey a signifié publiquement que je pense que c'est une bonne idée que Elider songe à la retraite et à faire autre chose de sa vie. Et là, ben, la poussière retombe tranquillement. Puis t'as fouillé exact. Ça, t'es allé à la rencontre de tout ce monde-là pour voir où en était la réflexion par rapport à la suite des choses pour Elider Alvarez.
Qu'est-ce que ça donne? Exactement. J'ai parlé à son agent Stéphane Lépine, que vous allez entendre dans quelques instants. J'ai parlé aussi à son promoteur Yvon Michel et à l'entraîneur Marc Ramsey pour voir, trois semaines plus tard, on est rendu où? Ouais, on a sûrement eu des rencontres, bien sûr, pour savoir, Elider, lui, est-ce qu'il partage l'opinion de Marc Ramsey? S'il ne la partage pas, est-ce qu'ils poursuivent ensemble ou est-ce qu'on se sépare à partir de ce moment-ci? Écoutez, les gens savent quand même que ça n'a pas été facile pour Elider Alvarez depuis un an et demi, approximativement. Deux défaites dans ses trois derniers combats. Il a eu quelques petites problématiques aussi à l'extérieur du ring. On va en parler tout à l'heure. Mais je vous laisse écouter un peu le résumé de la situation avec son gérant, Stéphane Lépine, qui nous dit, qui nous explique où en est Elider par rapport à sa réflexion pour le reste de sa carrière, qu'est-ce qui a accroché et on s'en va où éventuellement lorsqu'Elider va prendre sa retraite.
Il n'y a pas de conclusion finale encore de fait. Elider, lui, il veut continuer. Bon, il est inactif dans ses derniers combats. Pourquoi? Je prends le temps avec lui de trouver pourquoi. On ne va pas dire qu'on n'a pas trouvé pourquoi. Il va faire qu'il me prouve à moi qu'il est prêt à faire ce qu'il a à faire. Je pense pas qu'il y a mauvais entourage, là, c'est pas vraiment ça. Et que tu sais, ben tout le monde sait que c'est un peu mélangé. Je vous parlais de ses autres personnels, mais on sait que c'est un petit peu mélangé avec le retour de sa femme ici. Ça n'a pas été super facile personnellement à la maison. Gagner contre Kovalev, ben, il m'a écouté un peu moins, puis il est parti de son bord, puis il n'écoutait pas des conseils, puis il passait plus d'une oreille de rentrer dans l'autre. Mais là, à quelque part, c'est dur de devenir champion du monde, mais c'est encore plus dur de le rester. Puis, tu sais, nous, on disait, le travail ne fait que commencer à écouter champion, mais tu sais, il faut que, à 36 ans, il ne peut pas tourner coin rond comme il avait l'habitude de faire. C'est un athlète qui a tendance à prendre ses combats, de prendre un peu trop de poids. Puis là, à 36 ans, prendre son poids, c'est difficile. Le problème, c'est un peu beaucoup plus assidu et rigoureux à bien des niveaux. Puis nous autres, on veut surtout aussi, Marc et moi, commence à préparer immédiatement son après-carrière. C'est pas que ça monte, moi, mal pris, malheureux, puis je sais plus quoi faire.
Puis après ça, qu'est-ce que ça lui tenterait de faire?
Et écoute, il sait pas. La seule chose qu'on a parlé, c'est peut-être se servir de son nom pour pouvoir donner des cours à monsieur madame tout le monde.
Je sais pas si c'est le premier boxeur que t'amènes du point A au point final, disons, mais trouves-tu ça tough? La dernière étape, disons, la transition?
C'est souffrant, c'est un sport cruel, c'est épouvantable.
Intéressant. En même temps, je sais pas trop ce qu'il sous-entend par là, parce que là, c'est plus le sport qui est cruel, c'est la réalité qui cogne. Puis, donc, c'est un gars qui a fait de la sourde oreille à bien des conseils, et les gars se sentent quand même responsables de lui, même dans son après-carrière.
Oui, absolument. Écoute, je pense que vous allez entendre Marc Ramsey tout à l'heure, et c'est le cas de Stéphane aussi, Stéphane Lépine, c'est que on a sorti de ce gars-là de son environnement en Colombie. On l'a amené ici et là, ben, on sent la responsabilité premièrement de s'assurer que ce gars-là, sa santé soit à un bon niveau pour le reste de sa vie, mais aussi que il commence à penser à qu'est-ce que je vais faire à partir du moment où je ne serai plus boxeur. Maintenant, vous avez entendu Stéphane Lépine parler de certains problèmes familiaux. Elider, quand il est parti de la Colombie, c'était une personne, puis là, il est arrivé ici, il s'est installé pendant plusieurs années, et récemment, ben sa conjointe et sa famille sont venus le rejoindre ici, mais Elider était rendu, c'était plus le même gars qui avait quitté la Colombie il y a 10 ans, il vivait un rythme de vie qui était un peu indépendant, disons, qui était le sien, et là, ben disons que l'adaptation de revenir en famille au quotidien n'a pas été évidente.
Il retournait en Colombie, donc il voyait, il y a deux enfants là-bas, c'est ça. Puis là, donc, il a déménagé la famille ici, puis là, ils ont découvert que quand il n'était pas en Colombie, ben il y avait une vie différente.
Puis là, ben, exactement.
Et ça plaît pas à tout le monde.
Exactement. Donc là, ça a causé des problèmes dans son foyer et ça a été une source de distraction pour lui, ce qui a fait en sorte que tout le monde s'entend pour dire que dans le gymnase, il n'était pas à 100%. Il n'avait pas la tête à la bonne place. Et vous allez entendre Yvon Michel et aussi Marc Ramsey qui insistent sur ce point-là, sur l'importance pour Elider Alvarez d'être là à 100% mentalement s'il veut poursuivre sa carrière puis il veut pas que ce soit dangereux pour lui dans les prochains combats qu'il va entreprendre. On va écouter Yvon Michel là-dessus.
Elider a eu de bonnes discussions avec Marc. Marc a mis ses exigences, a mis des objectifs à Elider et Elider lui a mentionné, il a dit qu'il voulait poursuivre sa carrière, qu'il avait l'impression qu'il y avait encore plusieurs bons combats. Marc lui a dit « OK, mais voici les exigences que je te mets. Il faut que tu t'assures de faire un bon ménage et que ton focus soit réellement sur tes entraînements, sur ta préparation. » Ça remonte après sa victoire contre Kovalev. Tu sais, c'est parfois difficile pour certaines personnes de gérer beaucoup d'argent qui rentre d'un coup, une nouvelle notoriété de champion du monde. Je pense que Elider a peut-être pas géré ça de la bonne façon. Tu sais, certains boxeurs deviennent champions du monde et réussissent à concentrer leurs énergies et les nouvelles ressources pour devenir encore meilleurs. Elider pensait probablement que des choses étaient pour aller plus facilement après être devenu champion du monde, mais c'est le contraire. Les choses sont plus ardues. Rester en haut, c'est beaucoup plus difficile que de l'atteindre.
Donc, il n'a pas appliqué la recette Beterbiev, c'est-à-dire retourner au gymnase le lendemain matin ou le surlendemain de la conquête de son titre. C'est pas ça qui est arrivé.
Non, je pense qu'il pensait dans sa tête peut-être qu'il était, entre guillemets, rendu et que les choses maintenant allaient devenir un peu plus faciles. Mais disons que, comme vous avez entendu Stéphane Lépine tout à l'heure, quand il est devenu champion du monde, il a arrêté de m'écouter, il a arrêté de retourner nos messages, il ne marchait plus une ligne droite. Il a décidé de s'en aller dans sa propre tangente, peut-être un peu de popularité, l'attention peut-être à droite et à gauche et tout ça, plus d'argent aussi dans ses poches. Et là, ben la conjointe revient plusieurs années, quelques années plus tard, et là, elle se rend compte qu'elle ne retrouve pas le même homme qui lui, a pris certaines peut-être libertés pendant que, disons qu'elle n'était pas à ses côtés. Donc, ça a compliqué la donne pour Elider Alvarez. Puis je pense que Marc Ramsey aussi, pour lui, c'est très important que une fois pour toutes, Elider tourne la page sur ses problèmes à la maison ou dans sa vie personnelle s'il veut poursuivre. Sans quoi, Marc Ramsey, d'après moi, ne poursuivra pas avec lui. On peut écouter sa réponse.
Il n'y a rien qui est vraiment défini. Moi, j'ai donné mon avis de façon publique. J'ai donné mon avis également à Elider. En fait, c'est quelque chose qu'on parlait depuis quand même un certain temps. Là. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Elider, bien sûr, c'est lui qui est le droit de veto sur ça. Ça demeure quand même sa carrière à lui. Là. Sauf qu'il connaît mon avis. Lui, ce qu'il me laissait sous-entendre, même s'il n'y avait pas de décision finale de prix, c'est qu'il aimerait peut-être ça finir ça sur une autre note que ça. Il aimerait peut-être se donner un deux, trois combats. Écoute, je peux toujours l'accompagner là-dedans. C'est sûr que j'ai mis certaines conditions. J'ai dit que c'était la décision que lui allait prendre. Ça me dérangeait pas, ça me faisait plaisir s'il voulait toujours de moi comme entraîneur de l'accompagner là-dedans. J'ai une certaine responsabilité là, au niveau de sa carrière, au niveau de sa santé aussi. Okay. Mais il connaît mes critères, par exemple. Il connaît aussi, je lui ai demandé des choses spécifiques qui sont un petit peu entre lui et moi, là, des choses que je lui ai demandé de faire comme un peu j'aimerais qu'il y ait un projet d'après-carrière. Je veux pas qu'on se retrouve en avant de rien. Je veux qu'il me démontre qu'il prépare les choses.
À ta connaissance, puis là, c'est indiscret un peu, mais est-ce que tu penses que Elider Alvarez a encaissé des bourses suffisantes pour, disons, pouvoir avancer dans son après-carrière sans avoir trop de soucis financiers?
Ben oui, justement, j'ai des informations là-dessus. Sans aller trop dans les détails, il est bien. Donc, il a pu mettre la main sur plusieurs propriétés en Colombie. Donc, il a investi son argent dans l'immobilier. Mais, selon toutes les informations qu'on a, Elider doit continuer quand même de gagner sa vie. C'est pas de l'argent qui va être éternel. Il peut pas vivre seulement là-dessus. Mais oui, heureusement, il a investi son argent, donc ça va bien pour lui. C'est pas un gars qui est dans la rue, comme on dit, mais il peut pas, à partir de demain, dire « Ben là, je travaille plus, j'ai encore 60 ans à vivre, j'ai des enfants à faire vivre, et puis il y a plus d'argent qui rentre, et puis ça va bien se passer. » Donc,
je sais pas s'il peut avoir gagné plus que 4 millions en carrière, mettons.
Ouais, t'as raison. Non, c'est vrai. C'est probablement pas.
Parce que les combats que payants, ça. Regarde ça, là, ça commence avec. Je regarde, en 2015, il se bat contre Chilemba. C'était une carte, ça, si je me souviens bien. D'ailleurs, je faisais la description. Je pense qu'on alimentait le signal international. Il y a dû avoir un peu de sous là-dessus, mais c'était pas une bouche vertigineuse. Après ça, une couple de combats plus tard, t'as Lucian, t'as Jean, Pascal, deux combats contre Kovalev. Là, t'as Michael Seas et Joe Smith. Fait que pour moi, c'est je dirais un 3-4 millions autour.
Ouais, peut-être. Je pense que les deux combats contre Kovalev, on peut y aller à 1,5 million facile chaque.
Oui, peut-être 4-5.
Oui, peut-être avec le combat de Bouté, exactement. Donc, tu sais, puis là-dedans,
il y a des dépenses, évidemment. Il y a de l'impôt, ton équipe d'entraînement, puis ta famille, puis bref.
Mais écoute, ma conclusion, là, c'est que... Ben, exactement, un peu d'argent flambé à droite et à gauche. Mais ma conclusion, c'est que je pense que Helder va continuer de boxer. De ce que j'ai pu apprendre en parlant à ces trois messieurs-là, et surtout Marc Ramsey, à un moment donné, qui dit dans l'entrevue que j'ai effectuée avec lui, que on voit statistiquement parlant les entraînements qu'il fait en gymnase, qu'il y a un déclin. Il est rendu à 36 ans, puis il y a un petit déclin, et ce sera probablement difficile pour lui de tenir tête au meilleur de sa division. Donc, il y a peut-être encore quelques combats qui attendent Eider Alvarez, des combats de championnat du monde. Ça, par contre, je pense qu'on peut, commencer à oublier ça.
On peut créer des rivalités locales, comme Jean Pascal et Lucian Bouté se sont pas affrontés au summum de leur carrière, mais il y avait quand même de l'intérêt. On aurait aimé ça les voir se battre peut-être une couple d'années auparavant, mais il reste que l'intérêt était là. On verra si on peut bricoler quelque chose ou organiser quelques combats de fin de carrière.
Écoute, si je peux faire un petit parallèle, souviens-toi, il y a quelques années, quand Jean Pascal est allé cogner à la porte de Stéphane Larouche. Tu sais, il était un petit peu rendu sur sa dernière option. Mm-hmm. Il a cogné à la porte de Stéphane, puis Stéphane, au début, a dit « Je pense pas ». Et là, ils se sont reparlés, puis là, Stéphane a dit « Ben, voici les conditions. Si tu vas travailler avec moi, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. » Notamment au niveau de la discipline et tout ça. Puis regarde ce que ça a fait pour Jean Pascal. Il est redevenu champion du monde. Donc, peut-être que cet avertissement, on peut l'appeler comme ça, va faire en sorte qu'Helder va écarquiller les yeux, puis il va se dire « Ben, si je veux me donner une dernière chance de faire quelque chose qui a de l'allure, et surtout finir ma carrière sur une note positive, il faut que j'y mette un petit peu plus de sérieux. »
Très possible. Maintenant, concluons notre conversation de ce soir en changeant complètement de sujet, et on va parler de soccer et de l'impact qui affronte demain les Whitecaps à Vancouver. Un deuxième match en l'espace de quelques jours. Nous recevions Samuel Piette. On lui a fait entendre la description de ton but, d'ailleurs.
Oui, j'ai entendu ça.
Il était bien content. Il a tout entendu aujourd'hui. Je pense qu'il a fait la tournée des entrevues. On voulait tous lui parler. Mais demain, un gros défi. Vancouver, évidemment, il joue à la maison. L'impact a démontré qu'il fait gagner sur la route. Il faut juste répéter demain. C'est sûr que c'est un gros challenge. Vancouver peut pas jouer. Je dis pas qu'ils ont mal joué, mais Vancouver devrait être meilleur demain, en principe.
Ben, c'est sûr que battre une équipe deux fois sur leur terrain consécutivement, peu importe l'adversaire, je veux dire, c'est très peu probable. C'est pas des choses qui arrivent couramment. C'est sûr qu'au soccer, on joue rarement deux matchs collés contre la même équipe dans la même ville, mais en même temps, même Thierry Henry l'a dit aujourd'hui, c'est pas une tâche facile. Et là, les deux équipes vont être handicapées par le fait qu'il va leur manquer un gros morceau. C'est sûr que du côté de Vancouver, Lucas Cavallini est suspendu suite à son carton rouge. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'est excusé sur les médias sociaux en indiquant que son comportement dans le dernier match n'était pas adéquat et qu'il allait se ressaisir. Emmanuel Maciel sera absent chez l'Impact de Montréal. Et ça cause un casse-tête pour Thierry Henry. Parce que déjà, il a le défi de devoir peut-être gérer certains joueurs, peut-être un peu fatigués. Il n'a pas fait beaucoup de changements, Thierry Henry, dans les derniers matchs. Les gars qui ont été là, ils ont joué les 90 minutes en grande partie. Donc, il va avoir un élément de fatigue, c'est certain. Et là, il a le casse-tête de qu'est-ce que je fais au milieu de terrain avec l'absence d'Emmanuel Maciel? Est-ce que je rentre un gars directement à sa place comme Chamet Chaume? Ou est-ce que je ramène Samuel pour un match vers l'arrière à la place de Maciel, puis je mets un autre milieu un peu plus offensif en avant? Écoute, ce sont toutes les questions que se pose Thierry Henry présentement. Donc, on écoute la réflexion d'Henry sur le remplacement possible de Maciel et aussi comment gérer la fatigue des joueurs.
C'est vrai que Manny est en train de devenir un joueur important pour nous. On va essayer les trucs à l'entraînement cet après-midi, voir comment ça fonctionne et voir comment on peut évoluer. C'est vrai, il va falloir faire certains changements. Peut-être pas maintenant. Phase 2, voire 3. Il va y avoir des matchs tous les 3 jours. Donc voilà, il va falloir s'adapter aussi aux blessures, aux cartons rouges. Je peux pas vraiment penser à ça déjà là maintenant, mais ouais, il va falloir faire des roulements. Ça.
Écoute, Mario, moi je pense que demain, on va y aller avec ceux qui ont fait gagner Thierry Henry depuis quelques semaines. Et dimanche, au Red Bull Arena, contre le Union, c'est là qu'on risque de voir certaines rotations, selon moi.
OK, donc, mais je veux dire, c'est sûr que des gars pourraient prendre la relève, je sais pas à partir de combien de minutes, mais tu sais, les deux gars, tu vas leur demander de jouer 2 matchs complets en l'espace de 4 jours, ton 11 partant?
Ben écoute, c'est ça le problème. Normalement, là, en MLS, tu vas jouer samedi et mercredi. Là, c'est dimanche et mercredi. Là. Hier, les joueurs ont eu congé. Aujourd'hui, ils se sont entraînés, mais t'es mieux de pas surtaxer ces gars-là. En plus, sur du synthétique, tu sais, 2 matchs consécutivement sur du synthétique en l'espace de quelques jours. Moi, je pense que la fatigue, c'est l'ennemi numéro 1 de l'Impact de Montréal demain soir à Vancouver. Parce que si ces gars-là étaient frais, j'aurais quand même une certaine confiance. Ma confiance serait quand même assez élevée d'aller battre les Whitecaps. Mais là, tu sais, t'as un banc qui, malheureusement, présentement, Thierry Henry utilise très peu. T'as un gars comme Boyan qui revient de blessure, mais y es-tu prêt pour obtenir un départ? S'il est prêt à obtenir un départ, je pense qu'on se pose pas la question. Mm-hmm. C'est lui qui rentre dans l'alignement. Là, Jackson est blessé au genou aussi. Urruti est blessé. T'as des joueurs sur le banc qui ont pas beaucoup joué cette saison. Chamet Chaume, Amar Sedic, Karifa Yao, c'est des jeunes joueurs qui ont pas beaucoup joué cette année. Je pense pas qu'on veut les placer dans une situation de vie ou de mort dans un match comme celui de demain. Donc, non, écoute, le casse-tête est compliqué, là.
Jérémy, un gros merci. Beau dossier sur Eladar Alvarez et on a bien hâte de t'entendre nous décrire l'action demain en direct de Vancouver. Je parle du match et non pas toi parce que vous allez le faire depuis le studio, comme c'est le cas pour tout le monde en temps de COVID, mon cher. Bonne fin de soirée.
OK, merci à toi aussi. Bye. Salut. Bye.